Raconte-moi comment vous pouvez démarrer en quoi, en mai ou en juin l'année dernière? En mai?
En mai, ouais.
En mai, et avoir un premier client en septembre. Ça me paraît complètement dingue. Vous aviez déjà une base ou même pas du tout? Vous avez commencé from scratch et comment on peut faire ça?
Alors, bah, je peux raconter l'histoire du premier client, du coup.
Oui, peut-être.
Qui est donc Vodou, l'éditeur
de jeux vidéo.
De jeux vidéo, exactement. Très belle boîte. Donc, on s'est lancé en mai, on a fait la levée de fonds donc, en mai. On a démarré, en fait, au tout début, donc tous les trois et avec notre Founders Associate, dans les bureaux de Vodou.
Ah.
En fait, en attendant d'avoir nos propres bureaux, eh bien, Vodou nous ont prêté leurs bureaux pendant quelques semaines. Donc on était là, donc a commencé à se répartir les tâches, etc. Et en fait, on a entendu dans des bruits de couloir que Vodou était en train de faire un appel d'offres pour une solution de procurement. Donc, on est un peu curieux, on va se renseigner. On voit qu'ils ont une liste de Noël de fonctionnalités comme pas possible pour leur appel d'offres. Donc, nous, on se dit que...
C'est mort.
Bah, c'est mort, ouais, c'est beaucoup trop tôt. Mais on est quand même allé discuter avec eux pour comprendre leur cahier des charges et du coup, nous imprégner, voilà, pour nous aider à prioriser, nous... notre roadmap.
Oui, il y avait des trucs à apprendre, oui.
Clairement. Et en fait, ils ont été curieux de notre approche. Eux se reconnaissaient pas forcément dans les outils historiques qui existaient, enfin qui existent, et ils avaient envie d'une approche plus moderne. Et ils nous ont vivement encouragés à participer à l'appel d'offres, ce qu'on a fait.
Donc, et finalement, que vous étiez pas en train de faire du fake, vous leur aviez dit que c'était
ah oui.
le tout début.
Ah bah complètement, ils savaient complètement.
Ils sont assez joueurs quand même.
Ouais.
Bah c'est leur métier aussi.
et en fait, on a gagné l'appel d'offres sur des Figma.
Ok, génial. Et ce qui est cool, c'est que ça a validé en plus votre perception du marché. Parce que déjà, ouais. ce grand groupe-là qui fait un appel d'offres, il vous dit qu'il ne trouve pas l'acteur qu'il cherche et finalement, c'est vous qui l'incarnez. Bon, ils sont quand même assez... assez sympa, c'est canon.
Ouais.
En plus, ils vous aident à co-construire la solution, ce qui est quand même un avantage énorme. Ok, donc ça vient de là, ce premier client qui n'a pas été livré tout de suite, donc, parce qu'il a fallu attendre quelques mois pour le déployer quand même, non?
Bah, on a démarré, comme je disais, les développements le 1er juin, et en septembre, on était en prod pour Vodou.
Bon. Ok, et ben canon. Comment vous l'a mené cette acquisition client aujourd'hui? Tu parlais de communauté en Allemagne, des procurement. Comment est-ce que vous menez cette acquisition?
Alors, donc l'acquisition client, elle a évolué depuis le début. Donc au départ, on utilisait principalement notre réseau et le réseau de nos investisseurs pour accueillir, pour acquérir les premiers logos. Et je tiens à préciser, enfin, Vodou, notre premier client, est un client, et pas un design partner. Donc voilà, c'est un client qu'on a gagné sur l'appel d'offres.
On facture.
Non, mais voilà, c'était quand même une très belle victoire pour nous et un beau, une belle étape qui pour démarrer l'aventure Pivot. On pourra en parler par la suite, mais effectivement, le fait de d'avoir Vodou comme premier logo, comme premier client aussi rapidement et de le déployer aussi rapidement, ça a été très déterminant ensuite pour la suite de nos tours, de notre seconde levée. Et donc, concernant l'acquisition client, donc au début, c'était surtout sur notre réseau et le réseau de nos investisseurs. Et ensuite, on a démarré la chasse, donc en utilisant principalement LinkedIn et on a commencé à structurer l'équipe sales. Et comme je te disais, on a aussi, on organise aussi des événements de networking pour avoir un maximum de proximité avec nos prospects et la communauté du procurement en Europe. Donc typiquement la semaine dernière, on a fait un événement à Berlin, on a un événement à Londres et à Barcelone qui arrive bientôt. Et donc, en général, on fait un after work avec des gens du monde de la finance et du procurement. Et aussi, on organise des dîners, des Female Finance Leaders Dinners,
okay.
Où on invite uniquement des femmes, donc des CFO, des directrices des achats, des head of procurement, autour d'une belle tablée pour échanger, pour connecter avec, avec des femmes inspirantes.
Féminine, c'est toi qui l'amènes ou elle, pourquoi est-ce que vous vous rapprochez de la gente féminine?
Bah, du coup, oui, c'est moi qui suis au dîner. Romain et Marco
font leurs autres events de leur côté. Et au niveau de l'équipe, ça m'intéresse, parce que tu parles de l'organisation des équipes sales. Moi, ça m'intéresse de comprendre comment est-ce que vous avez organisé les équipes product et les équipes tech. Combien de personnes sont dans l'équipe product, combien de personnes sont dans l'équipe tech, et qu'est-ce que vous avez fait pour favoriser la nécessaire bonne communication entre ces deux équipes-là?
Yes. Alors, donc chez Pivot, on a une philosophie très forte pour les équipes tech et produits. C'est que chacune est responsable de sa prod, son flux de production. Donc typiquement, on n'a pas de project manager ou product owner.
D'accord.
En fait, aujourd'hui, dans l'équipe produit...
Ça n'a pas besoin, c'est parce que l'équipe... Ok.
Exactement. L'équipe engineering est responsable de son flux de prod et de comment aller plus vite. Et pareil pour l'équipe produit.
Ok.
Donc aujourd'hui, dans l'équipe engineering, donc on est... il y a 18 développeurs.
Ah, déjà ?
Ouais.
Ok.
Dans l'équipe produit, ils sont deux.
Ok.
Et justement, on a une conviction forte, c'est d'avoir le moins d'intermédiaires possible entre les ingénieurs et le produit.
Ok. Impressionnant. Et les échanges au quotidien sont formalisés comment ? Enfin, entre les deux équipes ? Vous les matérialisez, enfin, je sais pas, il y a des meetings quotidiens ou hebdo, comment ça s'organise, les échanges?
Yes. Donc, du coup, comment on travaille chez Pivot entre les équipes product et engineering? Donc, on a une conviction forte, c'est celle du One Piece Flow.
Okay.
Donc, typiquement, on travaille en méthode Kanban. Donc, on a un production board où on s'y réfère tous les matins en daily, donc avec les ingés et les products. En l'occurrence, Gauthier, notre UX designer, et Marco. Chaque matin en daily, eh bien, on se dit ce qu'on a fait la veille, on se dit nos priorités du jour, si on est éventuellement bloqué. Et on travaille vraiment en one piece flow, donc c'est-à-dire qu'on optimise notre flux de production, on prend une pièce, on la démarre et on continue de travailler dessus jusqu'à ce qu'elle soit en done et donc déployée en prod avant d'entamer une autre pièce.
Ok. Vous travaillez sur quoi comme outil côté tech? On en a parlé tout à l'heure de la stack, mais est-ce qu'au quotidien pour les développeurs, pour stocker les features et autres petits outils au quotidien, vous bossez sur quoi?
Alors pour nos outils, assez classique, on utilise Notion pour tout ce qui est documentation, mais aussi pour notre board Kanban. Après, on utilise GitHub, Slack. Honnêtement, rien d'extraordinaire.
Bon, ok, mais très bien. La place, l'IA a sa place dans un projet comme celui-ci, vu qu'on en parle beaucoup. Est-ce que vous avez déjà utilisé de l'IA ou prévoyez de le faire?
Alors, c'est une très bonne question. Donc à date, l'IA n'est pas au cœur de Pivot aujourd'hui, bien que on a déjà mis en place de l'OCR pour justement faire ce matching automatique entre les PO, les bons de commande et les invoices des fournisseurs. Mais on a déjà commencé à travailler sur plein d'aspects de l'IA, sur des applications concrètes. Et ça, je serais ravie d'en discuter pendant une autre.